Bonjour, la communauté de Coup Critique, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau et je suis très content, encore une fois, de pouvoir faire confiance aux internets et ainsi profiter, on va dire, de la connexion rapide malgré la différence de fuseau horaire pour recevoir aujourd'hui Manitou ou Fred, selon les préférences, selon la situation, selon le moment donné, qui est entre autres un co-animateur de la chaîne YouTube Twitch Dice Story, qu'on a déjà abordé. En fait, j'ai déjà parlé de Dice Story dans des vidéos précédentes, et même il y a de cela quelques années également. Et aussi également, travaille au studio Agathe, une maison d'édition française que l'on connaît bien aussi au Québec. Bonjour Fred, ça va bien?
Eh ben, ça va bien, merci de me recevoir. Et toi, comment vas-tu?
Ben, je vais merveilleusement bien. Encore une fois, je l'ai dit hors enregistrement, mais je le dis aussi en enregistrement. Merci d'avoir ajouté ton horaire en conséquence, parce que comme les gens peuvent le comprendre, nous avons des heures de différence. Je suis le midi et chez Fred, il est le soir. Et ainsi, nous adaptons nos horaires pour pouvoir échanger, discuter.
C'est la magie d'Internet, c'est formidable.
C'est la magie d'Internet. Internet, c'est magique qu'on veut.
C'est
donc,
vrai.
Fred, tu m'avais dit que tu étais familier avec le concept de montée de niveau, mais
oui.
Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me fasses un peu une petite présentation. Qui est Fred? Outre ce que j'ai pu mentionner déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir sur la personne que tu es?
La personne que je suis, c'est déjà une question difficile, mais
Oui.
ouais, bah, en dehors d'être co-animateur de la chaîne d'Ahistory, comme tu l'as dit, bah, je suis avant tout un passionné de jeux de rôle. Je suis voilà, quelqu'un de relativement accessible. Je parle de tout, de rien, sans aucun problème. Après, c'est vrai que mon univers tourne principalement autour du jeu de rôle, hein, puisque bah, c'est ma passion, c'est mon boulot. Donc, quand je ne fais pas du jeu de rôle, bah, je suis soit au lit, soit en famille, soit à table. Donc, c'est vrai qu'il me reste pas beaucoup de loisirs en dehors de ça.
Ben,
Donc,
écoute,
voilà, écoute.
je trouve ça parfait comme ça. Écoute,
C'est pas mal déjà.
on en mange et je comprends ça très bien. Donc, merveilleux pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec le concept de montée de niveau. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai une série de questions que je pige au hasard. Avant, j'avais une petite pochette physique avec des petites questions que j'avais écrites à la main et que j'ai mis à l'intérieur, sauf que pour préserver les arbres, je suis maintenant de façon numérique. Donc, une série de questions qui est vraiment pigée au hasard parmi un lot que j'ai écrit. Il y en a qui sont spécifiques à Fred,
OK.
qui sont vraiment dirigées vers lui. Il y en a d'autres qui sont plus génériques et qui pourraient être posées à n'importe qui. Ça se peut que je ne pige que des questions qui sont spécifiques pour Fred. Ça se peut que je pige seulement des questions qui sont très générales. J'en ai vraiment beaucoup. Et le
OK.
but, ben, c'est de vraiment apprendre à se connaître, échanger, discuter. Tu vas voir, Fred, j'ai souvent des sous-questions. Parfois, qui vont
OK.
embarquer
D'accord.
lorsque je pose des questions puis que tu dis des choses intéressantes. Ça se peut que, au lieu de piger tout de suite, je vais comme pointer ou cibler certaines mentions que tu as pu faire parce que ben, je suis un gars curieux et que j'aime se poser des questions. Fait
Tu veux
que,
dire que tu rebondis sur mes questions? Serais-tu MJ par hasard
Je
pour faire
suis
ce genre de choses?
MJ, effectivement. Effectivement, je suis. Et oui, je repose les. C'est super bien dit. Mais oui, effectivement. Est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt, quand tu veux.
Parfait. Fait qu'on se lance ainsi. J'ai ma petite roue de fortune qui tourne à ma droite avec mes questions aléatoires. On y va avec une première question. OK. Question plus générale, mais en même temps, je serais curieux aussi d'avoir ton avis là-dessus. J'aimerais ça que tu puisses, que tu me nommes un jeu qui a plusieurs années, on va dire, derrière la cravate, mais qui, selon toi, n'a pas pris une ride, qui demeure encore aujourd'hui très actuel, autant dans son système que dans son thème ou dans sa présentation. Je sais, hey, ça commence avec une grosse
Ah ouais, là,
question,
ça
hein.
commence, c'est costaud, ouais.
Ça commence lourd, ouais, je sais, excuse,
Vieux
ouais.
jeu qui a pas pris une ride. Purée, c'est pas facile.
J'avoue, c'est
Faut
rare,
que je
je pense la première fois que je la pige
fouille
en
un petit
premier.
peu de ma bibliothèque. Parce qu'il faut savoir que j'ai repris le jeu de rôle il y a pas très longtemps, en fait. Donc,
OK.
vieux jeu, c'est tout est relatif. Moi, je dirais Nightcrawler, la V2 de
Ah oh, oui.
Nightcrawler. Ce qui est en plus un de mes jeux préférés. Et même si le système, voilà, il est un petit peu, il s'essouffle peut-être un petit peu par rapport à ce qui se fait maintenant, avec un petit peu d'adaptation, je trouve que la thématique globale du jouet des voleurs, des criminels comme ça dans une cité urbaine fantasy. C'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui marche encore très bien, puisqu'il y a tout un tas d'adaptations, hein, Blade in the Dark, par exemple.
Oui,
donc il
oui.
y en a tout un tas. Donc ouais, ce serait ma réponse, un petit Nightcrawler.
Et cool. Je
rêve
content que tu
rêve
ce...
d'une V3 d'ailleurs de
Ouais, mais
Nightcrawler
je
un
trouve ça
jour.
vraiment cool que tu nommes ce jeu-là parce que ben c'est, je pense que c'est jamais venu au Québec, mais j'ai été capable d'avoir tout de même, tu sais, je veux dire,
Ouais.
j'étais quand même assez jeune, ça fait quelques années déjà,
Oui, il
et je me
commence à
rappelle
dater.
d'avoir, ouais, ça commence à dater, mais ça m'avait tellement impressionné lorsque c'était sorti, justement, l'espèce de pléthore de, on va dire, de, entre parenthèses, de classe, de plutôt de spécialisation de voleurs
Oui.
différents qu'il existait, je trouvais ça tellement impressionnant, mais
C'est vrai.
très cool
Ouais.
réponse, merci.
Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais.
Bon, ben regarde, on commence avec du lourd,
On commence avec du
la
lourd.
glace est brisée, comme ça on peut
C'est
continuer
bon.
peut-être quelque chose d'un peu plus
Le plus
léger.
dur est passé.
Bon, le plus dur est passé, exactement. On y va qu'une prochaine question au
Allez.
hasard, et ça tourne. OK, question très spécifique pour toi, Fred. J'aimerais ça un peu que tu me parles des débuts de Die Story. Comment ça a commencé?
Ouf. Ok, c'est très rigolo en plus comme histoire parce que moi ça fait des années que je joue en virtuel. Mais quand je disais les années, c'est que j'ai commencé je crois dans les années 2004, un truc comme ça. Après j'ai fait une grosse pause et je suis revenu il y a 5 ou 6 ans. Et en fait quand on a commencé, donc avant que Die Story naisse, on était dans un groupe d'amis en fait. Et j'avais envie de, je sais pas pourquoi, de faire une espèce de générique pour les sessions qu'on allait faire. Donc c'était sur Monster of the Week à cette époque-là. J'ai fait un petit générique, etc. Finalement, on n'a jamais joué à Monster of the Week. Et en fait, je connaissais donc quelqu'un qui s'appelle Amatsu qui m'a parlé de Vermine 2047, qui m'a fait jouer, qui m'a confié son scénario. Et au niveau jeu de rôle, j'ai pris une claque. J'ai adoré Vermine. Et du coup, j'ai mis en place une session. Et comme le problème, c'est que bah, j'avais trop de personnes qui voulaient jouer à ma table par rapport au nombre de places disponibles, bah, je me suis dit, bah, tiens, ce serait rigolo de se filmer comme ça, juste pour voir hein, ce que ça fait. Comme ça, bah, je peux montrer en fait, nos sessions de jeu aux autres amis. En fait, le but n'était même pas de le rendre public. Et puis, je me suis amusé à faire un générique parce que j'avais trop de temps libre à ce moment-là. Et finalement, ça a plu. Et on m'a dit, mais tu devrais le mettre en public. C'est sympa. Essaye. De toute façon, tu verras bien. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, tant pis. Bon, je ne savais pas trop quoi dire. Donc, j'ai mis effectivement les vidéos en public. J'ai créé la chaîne donc Die Story parce que pareil, je voulais les histoires 2D. Je me suis dit, tiens, j'avais pas trop d'inspiration. Ça ira très bien comme ça. Et en fait, l'épisode a pas trop mal fonctionné. On a eu pas mal de retours, des gens qui attendaient la suite, etc. Parce que je n'avais fait que la première partie, j'avais pas tout enregistré. Et puis, ben, selon l'engouement et tout ça, on m'a dit, vas-y, insiste, continue. Donc, j'ai continué, j'ai mis tout le scénario en fait en ligne. Et puis, un peu de temps après, bah mon complice de chaîne, hein, Kiefer, donc, qui est venu me voir, il me dit, ah tiens, j'ai envie d'essayer moi aussi, est-ce que, plutôt que de créer une chaîne dans mon coin, est-ce que je peux pas mettre ça sur ta chaîne? Je suis, bah oui, vas-y, amuse-toi, fais ce que tu as à faire et tout. Et lui, il faisait du jeu de rôle solo. Et donc, il jouait tout seul devant la caméra et tout, et ça a marché aussi. Et puis, bah, il y a eu le confinement. Le fameux confinement, donc enfermé à la maison, on s'est dit, tiens, c'est marrant, on a beaucoup de questions de gens qui nous demandent comment ça se fait, quoi, comment on a joué à Vermine, comment on fait les tutos solo, machin. On s'est dit, on va faire des espèces de tutos pour montrer comment on utilise Roll20, ce genre de choses. On l'a fait et ben, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. Les gens ont commencé à nous suivre, ils nous ont demandé de faire plus de trucs. Nous, on s'est prêté au jeu parce qu'on trouvait ça rigolo et puis on avait une espèce d'interaction en fait avec les gens. Donc on a continué pendant le confinement. Confinement terminé, on a continué encore. Et puis bah voilà, la chaîne elle a grossi petit à petit. Elle en est là aujourd'hui quoi. Donc ça s'est fait un peu par hasard sans vraiment en avoir envie quoi.
Ok. J'ai l'impression que parce que dans mon cas, c'est ça aussi. J'ai l'impression que le confinement a été, comme pour plusieurs, un espèce de moment d'élan pour
Ouais.
de nombreuses chaînes comme
Nous,
ça.
on l'a commencé juste avant et le confinement a fait que, enfin, à titre personnel, je me suis dit, tiens, je me demande ce que ce serait d'être streamer à temps complet. Et
Ouais.
donc, pendant un mois, je me suis dit, tiens, bah, je me lance à fond, je vais faire tout juste pour voir si ça me plaît. Donc, bah, ça me plaît pas. clairement. Je n'aimerais pas vivre de ça pour plein de raisons différentes. Hein. Mais par contre, ça m'a éclaté de le faire à titre. Enfin, ça m'éclate toujours de le faire à titre de loisir, quoi, à titre récréatif.
Et, mais c'est, je trouve ça curieux que tu, ben, en fait, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça parce qu'au fond, je me trompe. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur Dice Story, vous n'avez pas vraiment d'actual play, je crois.
Si, on en a
Ah, vous en avez
quelques-uns, mais en
quelques-uns, OK.
fait, ouais, on en fait. En fait, ce qui se passe avec Dice Story, c'est qu'on est un peu en dents de scie, c'est selon, comme c'est récréatif, que c'est sur notre temps de loisir.
OK.
Des fois, on a du temps pour le faire et des fois, on en a moins. Et en ce moment, on est plutôt vers le moins, mais non, on a quand même pas mal
Ah ben oui,
d'actual
je viens de voir
play
ça, ben
sur.
oui, ben
On
oui,
a
ben
même fait
oui.
Inferno récemment.
Ben oui, je viens de voir ça. J'étais très habitué à vos... Le maintenant que tu me le dis, ben c'est bon de savoir, je vais pouvoir me mettre ça dans mes oreilles maintenant quand je vais, quand je fais cuisine ou autre chose comme ça. J'écoute beaucoup d'Actual Play, mais j'écoutais beaucoup vos
D'accord.
vidéos qui étaient plus critiques ou interviews ou des choses comme ça,
Ouais.
mais je connaissais pas vos Actual Play.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait beaucoup de tutos, quelques actual plays, et puis des retours de lecture, etc. sur YouTube. Et il y a moins de 2 ans, 1 an et demi, je crois, on a voulu essayer Twitch. On a voulu essayer le live. Et ça a bien marché, puisque on s'est bien développé sur Twitch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de nos parties, de nos actual plays, on les fait principalement sur Twitch pour être en live avec la communauté, pouvoir interagir, les faire participer. Et si vraiment ça ne nous demande pas trop d'efforts de montage et qu'on juge la qualité de notre session intéressante, à ce moment-là, on la rebalance sur YouTube. Mais du coup, tout n'est pas sur YouTube non plus. Donc il y a quelques exclusivités sur une et l'autre plateforme pour que les gens viennent un petit peu à l'une et l'autre plateforme, quoi.
Parce que beaucoup de, dis-moi si je me trompe encore, mais beaucoup de vos rencontres ou interviews, même certaines actualités, vont se faire en live sur Twitch aussi. C'est bien ça.
Oui, en
OK.
majorité, c'est en live sur Twitch et on rebalance sur YouTube. Bah, comme là, par exemple, on a fait l'ouverture du financement participatif chez les 12 singes pour Cthulhuac, la réédition. Donc, on l'a faite, c'était qu'en mardi soir. Et donc là, juste avant que je ne vienne chez toi, j'ai lancé la rediffusion sur YouTube pour que ce soit accessible à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes pour le live, quoi.
Est-ce que c'est toi ou ton collègue qui font le montage, qui fait le montage?
Les deux,
Les
on a
deux.
la chance de pouvoir le faire un petit peu à deux, ce qui soulage la charge de travail en fait au
Oui,
niveau de la
c'est
chaîne. On
oui.
se partage la tâche parce que c'est quand même, enfin je t'apprends rien, mais le montage c'est chronophage quand même.
Oui,
Ça prend
oui, ça
beaucoup de temps.
prend du temps, ça
Ouais.
prend beaucoup de temps.
Donc là, si on peut
Ouais.
se décharger de ça, c'est aussi bien.
Bon, ben cool, tant mieux. On y va avec une prochaine question, si tu veux.
Allez.
Merci. Ça tourne. OK. Ce que, ben, on vient d'en parler un peu, mais tout de même, je serais curieux que tu approfondisses sur le sujet. Est-ce que tu trouves le plus stimulant dans le fait d'animer une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui vient de plus on va dire, te donner le goût de continuer au fil des années?
Il y a deux choses. Il y a le contact avec les gens, principalement. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est voilà l'interaction avec les gens, pouvoir participer avec le chat, échanger. Ça nous a permis de faire pas mal de très belles connaissances. C'est ce que je trouve, moi, le plus motivant. Et puis, on va pas se mentir, un petit peu le côté ego, le côté reconnaissance, de voir que notre travail plaît, que des éditeurs viennent nous chercher pour faire des trucs, ce genre de choses, ça flatte un petit peu l'ego. On se dit qu'on a une certaine légitimité, même si bon, on a toujours le vieux syndrome de l'imposteur, hein, qui plane au-dessus de notre tête. Donc voilà, c'est un subtil mélange des deux qui moi me donne envie de continuer, hormis la passion aussi du jeu de rôle, bien évidemment, parce que on gagne rien du tout avec ça, donc faut vraiment être passionné pour prendre autant de temps à faire ce genre de choses.
Et
Ouais.
petite sous-question par rapport à ça, je suis curieux, puis sens toi à l'aise aussi
Dis-moi.
sens toi à l'aise si tu as l'impression que la question est un peu hors propos, mais je serais curieux de savoir, est-ce que ça t'est arrivé depuis justement le lancement de la chaîne, depuis que tu animes le Twitch et tout ça, que tu as senti peut-être une certaine fatigue personnelle par rapport à ça? Ça t'est-tu déjà arrivé?
Oui, souvent. La fatigue personnelle liée au boulot et à la chaîne, comme je travaille en plus maintenant dans le jeu de rôle depuis pas très longtemps, c'est vrai qu'au niveau charge mentale, ça fait beaucoup. Après avoir passé 8-10 heures de travail, partir sur un live ou un truc comme ça pour reparler de jeu de rôle, des fois, bon, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, de manière générale, on arrive un petit peu à compartimenter. Et puis le gros avantage qu'on a, c'est que déjà, on est deux. Donc, quand moi, je suis fatigué ou que j'ai pas envie, parce que ça m'arrive de pas avoir envie, eh ben, il y a quand même quelqu'un qui va faire un live, quelque chose, qui sera tout seul dans son coin, mais ça permet à la chaîne de continuer son petit bonhomme de chemin. Et vice-versa, hein, quand Kiefer est un petit peu en dessous ou autre, bah, j'essaye de prendre le relais. Donc, on essaye d'avoir une espèce de rotation, même si clairement, le format que je préfère, c'est quand on est tous les deux. Je trouve ça plus dynamique, je trouve ça plus agréable. Et donc, mais si, ouais, clairement.
Oui, c'est toujours plus le
Parce qu'on
fun.
ne se rend pas compte des fois, mais c'est vrai que faire un live ou faire des vidéos ou quoi, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et à la fin, ça arrive qu'en général, quand je finis un live, je vais me coucher juste derrière. Hein.
Oh oui, je m'en rends compte aussi.
Tu
Lorsque
comprends bien,
je termine un enregistrement, je me rends compte souvent le matin, le lendemain, que je suis comme un peu plus fatigué.
ouais.
Je comprends pas pourquoi.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que le fait de pouvoir faire ça à deux, ça vous permet d'avoir justement une interactivité, d'avoir l'impression que tu ne discutes pas tout seul avec une caméra, ce qui est
C'est
quand même
vrai.
plaisant. Oui.
C'est ça.
On y va avec une prochaine question. Tourne. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de réponses à cette question-là, mais je serais curieux de
Ah,
savoir un
oula.
peu que tu me nommes une de tes découvertes de 2023. Un jeu, un supplément, une
Ah,
gamme,
ça
un
va
aide de
pas être
jeu.
difficile.
Ah, OK. Ça sera pas
Ma plus
difficile, OK.
grosse découverte 2023, c'est Fabula Ultima.
Ah, mon Dieu, oui. OK.
Fabula Ultima, qui a été vraiment une claque monstrueuse en termes de jeu de rôle. Et c'est rigolo parce que je le donnais pas vainqueur, hein, ce jeu. Quand j'ai vu le financement participatif, j'ai regardé vite fait, je me dis, ah, c'est du manga. Ouais. Je regarde le système, je me dis, oula, il y a que 4 stats qui se battent en duel, ça a pas l'air terrible. Je l'ai jugé, tu vois, j'ai été vraiment, vraiment odieux avec ce jeu. J'ai vu ce jeu, je me suis dit, non, c'est nul. Laissez-moi tranquille avec ça. Et c'est Kiefer qui a insisté dessus, qui a bien regardé et tout, qui a participé au financement, et qui me dit, viens Fred, je fais une partie, je fais le kit découverte, viens jouer avec moi. Et moi, j'aime bien découvrir des trucs, et je pense qu'avec la table qu'on a chez Dice Story, peu importe le jeu, tu sais quand même que tu vas bien t'amuser, en fait. Et donc, il m'a dit Fabula. Je fais bon, bah pourquoi pas, parce que je suis curieux, tu vois. Je juge vite des trucs des fois, mais je me dis, ouais, si ça se trouve, ça peut être rigolo et tout. Je fais d'accord, je viens. Et ça s'est super bien passé et j'ai trouvé le jeu vraiment très chouette. Malheureusement, le financement participatif s'est terminé. Donc, on n'a pas fini, enfin, je ne me le suis pas offert, mais comme on a fait l'interview auprès de Don't Panic Game, et comme derrière ça, on a fait une petite campagne de 37 épisodes qui est disponible sur notre chaîne, donc on a pas mal parlé tout au long de l'année de ce jeu, et bien finalement, bah, maintenant il est sorti, donc maintenant je l'ai. Et donc, c'est une très très belle découverte pour moi, ce jeu. Voilà.
Sans nécessairement tomber dans les détails du pourquoi et du comment, parce que
Ouais.
c'est pas une vidéo critique sur le jeu non plus. Je serais curieux de
Oui.
savoir pourquoi est-ce que c'est si bon que ça, rapidement, là.
En fait, tout simple. Pourquoi c'est si bon, purée, c'est dur comme question en rapide, en fait. Parce que le système, il est suffisamment léger pour être intéressant. Il apporte suffisamment d'options pour qu'on s'ennuie pas pendant les combats. Parce que, alors, je sais que toi, tu es un grand fan de Donjons et Dragons.
Non, mais
Non.
non.
Moi, à titre personnel, Donjons et Dragons, j'aime bien, mais sans plus, parce que je trouve qu'il y a trop de combats et que quand il y en a, ils sont trop longs. J'aime pas quand ça dure trois plombes et qu'on passe la soirée à lancer des dés. Voilà, je pas trop mon truc. Et Fabula Ultima, il a ce côté où tu as toujours un truc différent à faire, où l'initiative, qui joue à quel moment est super important. Et en fait, il a réussi à contrer tout ce que nous, on n'aime pas dans le jeu de rôle. En fait, lui, il le fait, il le met quand même, et ça marche. Et du coup, voilà, on a vraiment aimé. En plus, j'aime les JRPG, je vais y arriver, les JRPG. Puis tout petit, j'en ai fait énormément. Hein, Final Fantasy VII, tout ça, c'est mon truc. Et tous les clins d'œil qui sont faits à ce jeu font que vraiment, voilà, ça a été notre claque ludique 2023, mais largement au-dessus de tout le reste, quoi.
Ok. Et tu penses que ça pourrait satisfaire des gens qui ne sont pas du tout fans, parce que tu l'as mentionné au début, tu as fait manga, pas trop sûr, ça peut tout de même venir chercher ce preneur en quelque sorte.
Moi, je pense que ce qu'il faut, que ce soit pour ce jeu ou pour n'importe quel autre jeu, hein, je pense que de base, il faut rester curieux. On peut avoir des préjugés, on peut avoir un avis très tranché sur quelque chose, mais je pense qu'il ne faut pas rester fermé sur le truc. Il faut quand même l'essayer, même si il a tout pour déplaire. faut quand même prendre le temps d'essayer un truc et à ce moment-là de se faire un avis. Il y a plusieurs jeux, moi, que j'ai découvert comme ça et qui m'ont fait changer d'avis. Donc voilà, être curieux, essayer et se faire sa propre opinion. Et clairement, même si je suis pas à fond sur les mangas, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Le côté JRPG, les petits clins d'œil liés à cette génération, voilà, Final Fantasy VII et tout, fait que, je sais pas, la sauce, elle a super bien pris avec moi, en tout cas.
Ok, je suis curieux parce que tu l'as mentionné un peu, mais est-ce que tu serais capable de me dire rapidement un autre de ces jeux-là que tu. Ah, au premier abord, tu étais comme ah, pas ça, mais finalement, après l'avoir essayé, tu as été comme immédiatement convaincu.
Qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre comme jeu? Il y en a eu un autre, alors c'était peut-être un petit peu plus vieux. Je dirais Septième Mer.
Oui, ok.
La deuxième version de Septième Mer, quand Septième Mer est sortie, alors en plus c'est rigolo parce que je travaille pour le studio qui édite en français Septième Mer. Quand Septième Mer est sortie en français, j'avais envie d'un jeu de pirate. Je suis tombé sur Septième Mer, j'ai regardé le système, je me suis dit, putain, j'ai rien compris quoi. Les mises, les trucs, c'est trop compliqué. Le bouquin était beau, mais voilà, je l'ai mis de côté, j'y ai pu retoucher. Et Kiefer, donc la personne avec qui j'anime la chaîne, c'est pareil, on a beaucoup aimé le lore et tout ça, mais le système, on n'avait pas bien compris, voilà. Et en fait, donc cette année, là, au mois de septembre-octobre, on a financé donc KT, donc le dernier supplément pour Septième Mer, qui est un peu un spin-off. Et bah, j'ai replongé le nez dedans fatalement par rapport au travail. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage que je vais quand même lui donner une deuxième chance à ce jeu. Parce que bah, même si, en plus c'est rigolo, parce que moi le côté asiatique, je n'aime pas ça du tout, quoi. Et KT, c'est complètement ça.
C'est
C'est
ouais, c'est ça, c'est ouais.
complètement ça. Et je me suis un peu forcé. Je me suis dit, tiens, je vais quand même redonner une chance au système et tout ça. Donc on a regardé avec Kiefer et tout. On a fait un actual play. Et en fin de compte, soit il y avait un truc qu'on n'avait pas compris, soit il y a eu des petites modifications, je sais pas. On a trouvé que ça tournait très bien. En fin de compte, que c'était très chouette et je me suis vraiment beaucoup amusé. Ce qui fait que bah, ça m'a donné envie derrière de me faire la collection entière, quoi. Donc je commence petit à petit à avoir quelques bouquins. Dès que je peux, je prends un supplément et tout. Et ouais, c'était vraiment ça. Il partait pas vainqueur. Les mises et tout ça m'avait un peu refroidi. Mais je n'y avais jamais joué. Et là, j'ai testé le truc, j'ai insisté un petit peu, et en fin de compte, il est vraiment très épique, très héroïque, et il a des défauts, hein, comme tous les jeux, parce que
Oui.
le propre du rôliste, c'est de ne pas trouver le jeu ultime parfait, mais il coche quand même pas mal de cases.
OK. Tant mieux, tant mieux.
Ouais.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié justement aussi le lore et tout ça, mais le système, j'ai un peu moins accroché, mais rendu là, c'est une question de préférence. On a chacun
Oui.
nos petits coups de cœur et tout. Mais pour répondre à ta question, par contre, non, Donjon Dragon n'est pas dans mes coups de cœur du tout. On en parle parce que ça demeure qu'au Québec, c'est le gros joueur. Peu
Ouais.
importe que ce qu'on en dit, au Québec, avec
Mais
l'accessibilité aux ouvrages en français qui est difficile et
pense que
tout ça.
c'est partout, hein, partout,
Oui.
Donjons et Dragons, c'est le gros truc de partout, quoi.
Oui. Mais au moins, comment je pourrais dire, en Europe, en France, vous avez un peu plus de variété qui s'offre à ce milieu-là, alors
Ouais.
qu'on commence à avoir un peu plus de stock, nous, mais demeure que Donjon Dragon est un gros marché
C'est
qui.
vrai que
Oui.
en France, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de maisons d'édition qui font
Oui.
des créations françaises et qui en plus sont de très bonne qualité. Je
Mmh.
pense notamment aux 12 singes. Les 12 singes font quand même beaucoup de bons jeux, principalement tournés vers de l'occulte contemporain. Mais ils sont vraiment très très bons là-dedans. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est plutôt bien lotis.
Ouais. Surtout que Toussaint, c'est potentiellement je dirais le, je peux dire la maison d'édition qui malheureusement n'est pas distribuée au Québec et que ça me
Ah ouais,
fait beaucoup de peine parce que c'est
j'imagine.
un genre qui vient me chercher justement tout ce qui est l'horreur contemporaine.
Ouais.
Donc, j'ai une question. Et sans toi à l'aise d'en parler, c'est comment est-ce que tu en es venu à travailler avec le studio Agathe? Comment est-ce que tu as mis le pied finalement dans le monde professionnel du jeu de rôle?
Par le plus grand des hasards.
OK.
Alors, ce que je peux en dire, c'est que je viens pas du tout de cet univers professionnel à la base. Hein. J'étais artisan commerçant. J'ai commencé à travailler très très jeune. Hein. J'ai quitté l'école très très jeune. Donc j'ai passé 25 ans dans la même boîte. Et c'était fin d'année dernière, j'étais à la limite du burn-out, genre j'en pouvais plus des conditions de travail dans lesquelles j'étais. Et j'ai démissionné parce que vraiment je saturais, je pouvais plus. J'ai démissionné, donc je me suis dit, tiens, j'ai le droit à 2 ans de chômage, je vais me poser pendant 2 ans pour rien faire, en fait, profiter un petit peu de la vie, découvrir des trucs. La fameuse excuse, je vais me mettre au sport, tu vois, mais que tu fais pas, en fait. Et donc, du coup, je ne cherchais pas de travail, hein, je ne voulais pas travailler. Et c'est une amie qui travaille chez le studio Agathe depuis peu de temps aussi, qui savait pas que j'étais au chômage et qui me dit, ah, mais tiens, je te verrai trop au sein du studio, tu devrais, en plus ils cherchent des gens bientôt, tu devrais postuler. Bon, elle me dit ça, je suis ouais, mais bon, j'ai jamais fait de travail de bureau, je sais pas, enfin, pour moi c'était impossible, j'avais aucun bagage qui permettait de le faire. Donc j'ai dit non, c'est pas pour moi. Et puis elle a insisté, insisté. Et puis après on s'est vu dans une convention sur le jeu de rôle. Hein, je l'ai vu en vrai. Et elle a continué. Elle me dit, je t'assure, hein, je suis sûr que tu apporterais quelque chose de sympa à l'équipe et tout. Et je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre. Enfin je vais essayer et puis on verra bien. Je veux dire au pire ça marche pas et j'avais pas prévu de travailler. Et dit au mieux ça marche et ça peut peut-être donner quelque chose de super chouette quoi. Donc, j'ai postulé vraiment sans conviction, ce qui ne voulait pas dire que j'en avais rien à faire non plus. Je me suis quand même mis en condition, j'ai quand même bien regardé ce que ça proposait. Donc, j'ai fait un, deux, trois entretiens. Plus je faisais les entretiens et plus je me dis, ah ouais, ça serait quand même bien de travailler pour eux. Ça me plairait bien en fin de compte, ça a l'air chouette. Et alors, plus moi, je suis quelqu'un de motivé, de passionné. En fait, plus on m'apporte des choses qui m'intéressent, plus je vais foncer à 100%. Et du coup, effectivement, je partais avec quand même beaucoup de handicap parce que je ne savais pas faire grand-chose à la base. Voilà, on a discuté tout ça. Donc, on s'est dit, ouais, on va faire un test. Hein, donc, je suis en CDD. Hein, donc, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, j'ai signé avec eux pendant un an pour apprendre. Tout simplement à me perfectionner, à voir un petit peu de quoi ils ont besoin, à voir ce que moi je suis capable de leur apporter, à voir aussi si déjà à mon niveau ça me plaît, parce que c'est quand même un peu particulier. Et donc voilà, pour le moment je suis en phase de pas phase de test, mais voilà, on regarde un petit peu, j'apprends et puis on fera le bilan en mi-2024, on verra où est-ce qu'on en est, si on continue, si on s'arrête là. Donc voilà, c'est vraiment par hasard, hein, c'est pas quelque chose que je cherchais.
De fil en aiguille, ça
voilà.
en est venu jusqu'à là, mais
Voilà,
c'est.
de fil en aiguille, et
Oui.
puis pour l'instant, ça se passe super bien, je suis vraiment ravi. C'est pas facile tous les jours, parce que justement, quand tu as autant de choses à apprendre, avec une grosse quantité d'informations, que t'es pas très. T'es pas très confiant, t'es pas très serein, donc tu te mets beaucoup de pression, tu veux faire bien. Donc voilà, c'est pas tous les jours simple, mais ça reste un boulot qui est motivant et qui est. Enfin, je vis de ma passion quand même, c'est quand même pas donné à tout le monde,
Mais
donc
non, pas du tout.
j'ai une chance incroyable à ce niveau-là. Donc voilà, du coup, j'essaye de faire ce qu'il faut. Hein.
Puis comme tu le dis, c'est que c'est faire un
C'est.
180 degrés pour tomber dans un milieu professionnel que tu ne connaissais pas du tout, c'est quelque
J'avais
chose,
jamais envoyé de mail avant, tu vois, enfin, à part des conneries de chaînes ou des vidéos de chats, j'avais jamais envoyé de mail. Voilà, donc c'est tout un tas de choses que je découvre encore aujourd'hui. Hein. J'ai encore fait des bêtises aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Donc voilà, j'apprends. Et
On
puis
apprend.
j'ai la chance de bien être entouré et d'avoir une équipe qui est quand même assez compréhensive et patiente avec moi. Donc ça joue beaucoup.
C'est quand même vraiment chouette de se dire que c'est sûr que, après tout, il y a un côté du fait que tu as justement cette passion-là pour le jeu de rôle qui a influencé la possibilité de pouvoir mettre le pied dans cette boîte-là et d'y travailler, c'est sûr et certain. Et ça, c'est cool parce que ça démontre que à quel point ça peut avoir on peut dire des répercussions sur notre manière de voir, sur notre manière de vivre notre passion et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment très cool pour toi, en fait. Ben, félicitations d'ailleurs.
Merci, on va espérer que ça dure, mais non, non, c'est. Et puis en plus, comme je disais, si cette personne n'avait pas insisté un petit peu, à aucun moment j'aurais eu de moi-même l'idée de postuler pour une maison d'édition. Et en plus, enfin, je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire salé, mais assez critique. C'est-à-dire que je me serais pas vu travailler pour n'importe quelle maison d'édition non plus. Tu vois, il y a certaines maisons d'édition, on m'aurait proposé la même chose. J'aurais même pas cherché, j'aurais dit non de suite, parce que soit c'est une maison d'édition qui me plaît moins, ou qui a une gamme de un catalogue qui me fait moins vibrer, ou qui a des valeurs peut-être que je ne partage pas. Et du coup, le fait que ce soit le studio Agathe qui de base à l'époque était quand même l'une de mes maisons d'édition préférées, ça a énormément joué, quoi. Donc du coup, voilà, vraiment coup de bol pour moi. Pour une fois, je touche du bois, c'était vraiment chouette. Et j'ai foncé dans la brèche, et on va essayer d'y rester le plus longtemps possible, écoute.
Ben, on va le souhaiter. Je te le souhaite en tout cas. Je le souhaite.
C'est gentil.
On y va avec une prochaine question. Question plus générale un peu. Est-ce que tu as déjà eu l'idée, le projet, ou même justement, tu as déjà mis sur papier le début d'un concept ou le plaisir de vouloir créer ton propre jeu de rôle?
Non. Tout simplement parce que ma plus grosse faiblesse, c'est que je ne suis pas bon pour inventer des scénarios. Je ne suis pas bon pour inventer... voilà, c'est un truc sur lequel je n'arrive pas. Je ne sais pas créer mes scénarios. Je suis un... comment dire, pas un voleur, mais moi, je sais prendre les choses des autres et les arranger à ma sauce. Ça, il n'y a pas de problème. Faire des petits mélanges ou quoi, ça va. J'arrive à adapter des scénarios pour les faire correspondre à quelque chose qui me plaît moins, un peu mieux. Mais créer de zéro, c'est quelque chose que je suis incapable de faire à l'heure actuelle, en fait. Et je suis toujours assez admiratif des personnes qui arrivent à créer leurs scénarios. Alors, créer un scénario et puis dire ah, tiens, vous êtes dans une taverne, il y a un gars, il vous donne une quête pour aller chercher un trésor. Voilà, ça, je pense que tout le monde est capable de faire ce genre de scénario, mais personnellement, ce genre de scénario ne m'intéresse pas. Moi, j'aime quand c'est un minimum recherché, qu'il y a une petite intrigue, qu'il y a un petit cliffhanger, hein, quelque chose d'intéressant. Donc, ce genre de scénario, je ne sais pas les faire. Donc, créer un jeu de zéro en imaginant le système, en imaginant le lore qui va avec, etc., c'est quelque chose que je, actuellement, serais bien incapable de faire.
Mais
Aider
c'est...
quelqu'un,
Oui,
pourquoi
vas-y,
pas? Tu vois, aider quelqu'un qui faire une espèce de brainstorming, dire, ah tiens, on pourrait faire ça et tout, rebondir sur les idées des autres, ça, j'y arrive. Mais créer de moi-même, c'est quelque chose qui m'est très difficile.
C'est intéressant parce qu'habituellement, quand je pose cette question-là, souvent les gens vont dire en premier lieu, ils ne vont pas nécessairement dire les modules ou les aventures ou tout ça, ils vont vraiment plus focusser sur le système. Et toi, tu as plus dit les aventures, les scénarios. Est-ce que tu as l'impression que tu aurais peut-être plus de facilité à concevoir un système de jeu avant une aventure?
C'est surtout que pour moi, le système de jeu, c'est pas le plus intéressant dans le jeu de rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers, c'est le scénario, l'histoire qui va avec, parce que au final, les gens, ce qui dans un jeu de rôle, ce que les gens hackent le plus, c'est le système. C'est pas souvent les univers. Donc ça veut dire que les univers de base, ils semblent cohérents, ils semblent plaire aux gens. Ce qui leur déplaît, c'est les systèmes. Donc moi, si je devais créer un jeu de rôle, je créerais d'abord l'univers et l'ambiance et tout ça, avant de chercher un système qui colle, qui puisse coller dessus, quoi. Donc les systèmes, ce serait la même problématique de toute façon. Créer un système de zéro, j'en serais aussi incapable, hein, très sincèrement.
Un gros morceau.
Ouais.
Je suis curieux parce que là, vois-tu, là, tu mentionnes des choses et je tombe dans mes fameuses sous-questions et je dis souvent que je suis curieux, puis c'est vrai. Tu as parlé d'univers de jeu. Est-ce que tu as des univers fétiches? Là, tu as parlé tout à l'heure de Vermine, oui, entre autres, mais
Fermine, j'aime beaucoup.
outre ça, est-ce que tu as des.
Capharnaüm.
Capharnaüm? Je
Est-ce que
connais
tu connais
seulement de
Capharnaüm?
nom, mais ça, encore plus,
Ah,
j'ai
si
jamais
tu
vu
me
au
lances
Québec.
là-dessus, alors on en a pour 3 heures.
OK.
Capharnaüm, c'est un jeu arabisant fantasy, un peu à l'image d'Aladdin, Prince of Persia, Les Mille et Une Nuits, ce genre de choses. Et donc c'est du médiéval fantastique en fait, mais avec une thématique vraiment où la poésie est vraiment mise en avant, la magie est très très présente, mais une magie bien spécifique avec les fameux génies dans le désert, avec les fameux mirages aussi dans le désert. Il apporte aussi une touche super intéressante avec les différentes ethnies qu'on peut y trouver, avec enfin il y a tout un lore. Et en plus, les bouquins sont quand même magnifiques. puisque voilà, on est sur des trucs vraiment, voilà, c'est du mille et une nuits en version jeu de rôle. Donc l'aventure, l'exploration est vraiment mis en avant avec les traversées dans le désert, les caravanes, et puis il y a tout ce qui est les relations politique, diplomatique, avec l'étiquette à avoir. En fait, si tu veux, Capharnaüm, c'est une espèce de Legend of Five Rings, mais en mille et une nuits, si tu préfères.
Ok, ouais. Oui,
Voilà.
je suis capable de comprendre la référence à celui-là.
C'est-à-dire qu'il y a,
Parfait.
il y a tout un protocole, il y a tout un tas de trucs comme ça, même si je trouve que dans Capharnaüm, c'est quand même moins mis l'accent dessus que sur L5R, qui est vraiment très,
Cadré, ouais.
très, très carré et que je déteste, en fait, tout simplement.
Ok.
Ah ouais,
Est-ce que tu as de la difficulté justement avec les univers qui sont trop rigides, qui ne laissent pas assez de place à
Non,
l'interprétation
j'ai
avec un
juste
peu?
une difficulté avec L5R.
Ok. Ok,
J'ai été
parfait.
traumatisé par ce jeu, donc.
Ok.
Mais donc voilà, Capharnaüm, c'est un univers que je trouve incroyable, qui moi me fait vachement vibrer, tout comme l'a fait Vermine, tout comme l'a fait Donjon et Compagnie,
OK.
c'est pas vraiment un univers, mais vraiment le cadre entreprise, ça a été
Oui, mais oui.
mon coup de cœur 2022, hein, Donjon et Compagnie. On en a fait énormément sur la chaîne. Donc ouais, moi c'est quand je vais choisir un jeu, je choisis le jeu en fonction de son thème avant de choisir son système, en fait.
Et outre, disons, tu as mentionné tout à l'heure les jeux qui étaient plus à saveur asiatique et tout ça, est-ce que tu as des jeux qui ont des thématiques, ou plutôt des thématiques globales, générales, qui viennent moins te chercher, comme la science-fiction, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont moins dans ta tasse de thé?
Le médiéval fantastique classique,
Ok.
c'est pas le truc, tu vois, Donjons et Dragons, j'ai dû faire deux parties dans ma vie. C'était sympa, mais c'est pas le truc auquel je vais courir le premier. Je dis pas que j'aime pas, hein, c'est juste que c'est pas le truc qui va m'accrocher en priorité. Et de manière générale, alors je sais pas pourquoi, mais en gros, tous les gros jeux commerciaux, Cthulhu, par exemple, l'appel de Cthulhu, c'est sympa. Mais c'est pas un truc où je me dis, tiens, il faut absolument que j'y joue. Non, Cthulhu, ben, on me propose une partie, pourquoi pas, mais pas plus. Vampire, pareil, tu vois, Vampire, pourtant, ça a l'air super intéressant. J'ai essayé un petit peu Vampire, j'ai trouvé ça chouette, oui, c'est pas mal, mais c'est pas un univers qui va me prendre et me secouer et me dire, voilà, faut que tu joues à mon jeu, quoi. Au final, j'ai pas souvent, on va dire, des claques comme ça sur certains jeux, mais j'en ai à peu près un par an. Et il faut vraiment que le jeu, il ait une spécificité vraiment particulière pour qu'il me mette par terre et qu'il me dise, voilà, t'as pris une claque aujourd'hui.
Donc, comme Capharnaüm, justement.
Capharnaüm, Nightcrawler, Vermine, Donjon et Compagnie, Fabula Ultima.
Septième mer.
Donc, septième mer, j'irais peut-être pas
L'univers.
jusqu'à dire que j'ai pris la claque, mais disons qu'il m'a permis de me remettre en question.
OK.
Ouais.
C'est important aussi. C'est important aussi.
C'est important.
C'est important. Prochaine question, si je me permets.
Dis-moi tout.
OK. Question plus projection dans l'avenir, un peu les projets pour 2024. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais mentionner?
Des projets à titre
À
personnel,
titre pour la
professionnel?
chaîne, pour dans le milieu du jeu de
Bah,
rôle.
pour la chaîne, en fait, ça peut paraître bizarre, mais j'ai aucune ambition, moi, avec la chaîne. C'est-à-dire que moi, je fais les trucs parce que ça m'amuse, parce que j'ai envie de partager ou quoi, mais tu vois, je fais pas de pub. Je vais pas chercher les gens, ah, abonnez-vous surtout, hein, machin. Donc, je le dis en rigolant, mais tu vois, sur Facebook, je pourrais mettre des pubs sur tout un tas de groupes, etc., pour vraiment diffuser. C'est un truc auquel je pense pas que j'ai peut-être aussi par fainéantise pas envie de perdre du temps avec ça. Donc du coup, j'ai pas d'attente spécifique. Moi, je profite de ce que j'ai. Je suis vraiment déjà très content de là où on en est. Donc pour la chaîne, à part continuer à faire des actual play ou des trucs comme ça qui, moi, me font vibrer, j'ai pas d'attente spécifique. Je cherche pas à grossir, à atteindre un certain seuil. Au niveau professionnel, ben clairement, ce que j'aimerais, c'est arriver à être suffisamment performant pour que le studio puisse me garder, qu'il y ait suffisamment de travail pour moi. Donc oui, ça, ce serait clairement mon objectif de 2024. Et puis non, en fait, tout simplement, moi, je suis super content, en fait, de ce que j'ai maintenant, et ça me suffit, en fait. Je ne cherche pas à en avoir plus.
Ok. Ben, en même temps, tant mieux. Si
Oui,
on est
j'ai
bien
tout ce
dans
qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut, donc je n'y touche pas.
Je sais pas si vous dites ça en France, mais il y a l'expression d'être sur son X. être, si on veut, à la croisée des
Ouais.
chemins, bien, être bien dans son, on va dire, dans sa
C'est
situation
ça.
actuelle, là.
Ouais. Et puis moi, j'aime bien ma routine en plus, tu vois. Donc je suis bien dans ma situation. Après, oui, découvrir de nouvelles personnes, croiser des. Tu vois, on se rend souvent, enfin, souvent, on se rend de temps en temps à des conventions en France. Donc, croiser des viewers, hein, croiser des éditeurs, faire connaissance avec des auteurs, ce genre de choses. Moi, je trouve ça super enrichissant. Partager, on a, tu vois, par exemple, l'année dernière, on a partagé un stand à Octogone avec d'autres créateurs et créatrices de contenu. C'était sympa, tu vois. Donc, moi, j'aime bien en plus proposer des parties. Un tel vient à la maison, enfin, vient sur notre chaîne. Moi, je vais, un peu comme on est en train de faire en ce moment. Ça m'intéresse vachement, tu vois.
Mais écoute, moi aussi,
Je trouve
j'aimerais
ça
ça
super.
pouvoir aller à Octogone, même si c'est un peu loin. C'est le genre de choses que je trouve cool. Au-dessus, j'allais te poser la question pour savoir si vous alliez à des conventions, des choses comme ça, mais ça répond à ma
Ouais.
question en même temps, là.
Ouais, ben là, cette année, déjà avec le travail, hein, je vais aller à Troll et Légendes, donc qui est une convention en Belgique.
Oui.
Donc, après, une grande convention, donc ça, j'y vais pour travailler. Après, bon, c'est pas du travail quand on aime ce qu'on fait, hein, bien sûr. Et après, à titre donc de loisir, hein, je vais aller donc en Alsace, donc à Kaysersberg, qui est la localisation où l'ami avec qui je fais la chaîne habite. Donc du coup, je peux le voir, parce que sinon on se voit jamais. Il est à l'autre bout de la France, donc on se voit jamais. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir voir un petit peu hein, tout le crew de Die Story qui sont tous là-bas. Et
Comment
puis
vous
de
êtes
voir.
rencontrés? Comment vous êtes rencontrés? Je suis curieux.
Ah, c'est parce que justement, sur Nightcrawler, je faisais une campagne avec un des joueurs. Ce
Ouais.
joueur, j'ai beaucoup sympathisé avec lui. On a fait du jeu vidéo et tout ça. J'ai arrêté le jeu de rôle, mais j'ai continué de jouer avec lui et tout. Un jour, il me dit, tiens, regarde, Capharnaüm, ils font une réédition. Donc, c'est lui qui m'a remis le nez dans le jeu de rôle, tu vois. Donc, c'est un peu grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et en fait, c'est un ami à lui, qui connaît IRL. Je voulais faire une petite campagne. Je cherchais des joueurs. Il m'a dit, bah, tiens, j'ai un copain qui serait intéressé et une copine aussi qui serait intéressée. Je fais, bah, ramène-les. Et depuis, on ne s'est pas quittés, quoi. Donc,
Bah, mais tant mieux,
voilà.
tant mieux. Tant mieux. Salut à
Encore une
toi,
fois, la
sinon.
magie d'Internet.
Oui, la machine Internet, je sais, ça me surprend toujours. À chaque fois, ça me
Ah,
renverse.
pour moi, c'est incroyable. Par exemple, j'ai une amie québécoise avec
Pour
qui je
vrai?
joue régulièrement, ouais, Dizae. C'est elle qui m'a motivé, qui m'a permis de me lancer sur Twitch,
OK.
puisque c'est elle qui faisait la MJ sur Blade in the Dark, d'ailleurs.
OK.
J'étais aux
Est-ce qu'elle
anges.
a
Hein.
sa chaîne Twitch à elle?
Elle n'a pas sa chaîne Twitch, non,
OK.
elle n'a pas de chaîne. Si, elle a une chaîne Twitch, mais elle stream très peu. Elle faisait du graphisme, je crois. Et du coup, donc, elle joue avec nous régulièrement. Elle est quasiment tout le temps chez nous. Dès qu'on peut faire un actual play, on l'invite.
Oh,
Et
c'est cool ça.
sans la magie d'Internet, je n'aurais jamais pu la
Mais
rencontrer.
non.
Et c'est génial parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà.
Puis souvent, c'est le genre de contre-coup qu'on ne pense pas, mais que la pandémie a aussi eu sur nous, tu sais, le confinement et tout ça, l'espèce d'accessibilité à
C'est
on va dire,
vrai.
l'équipement pour pouvoir discuter, échanger. Moi, je n'étais pas du tout équipé au début de la pandémie. J'avais rien du tout, là. J'avais rien du tout, j'avais des roches, puis je sais pas, rien. J'avais même pas presque pas d'ordinateur. On y va avec une
Ouais.
prochaine question, si tu me
Allez.
permets, avant que je dise d'autres niaiseries. OK. Je vois un peu que tu. J'ai remarqué, en fait, c'est vraiment comme par hasard, j'ai vu que tu participais à des actual plays sur, dans le fond, la chaîne de Damien Coltis. C'était Zombiologie.
Oui, alors c'est sur la chaîne de Silky Nael où il est
OK.
MJ en
OK.
fait. Et donc Silky m'a invité. Donc ouais, je joue avec Damien
Oui, mais
Coltis.
justement,
On essaye d'avoir une
de
dernière
voir.
date pour finir la campagne.
OK.
Enfin, la campagne, le scénario en
Le
cours. C'est
scénario.
très difficile d'agencer les agendas de tout le monde.
Mais c'est curieux justement de savoir un peu ton expérience par rapport à justement d'aller jouer sur la chaîne de quelqu'un d'autre, d'aller essayer un jeu qui justement il n'est pas encore sorti officiellement, d'aller on va dire de partager un peu cette espèce de moment-là
Ouais.
assez privilégié. Je serais curieux d'avoir ton avis un peu.
Jouer chez d'autres personnes, c'est quelque chose que je connais déjà, puisque je suis allé jouer chez plusieurs autres chaînes de créateurs, créatrices de contenu. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, on aime bien inviter de temps en temps à aller chez les autres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est familier. Après, oui, effectivement, jouer à un jeu qui n'est pas encore sorti, on se sent un peu privilégié, mais en même temps, on fait le bêta-test aussi, donc on affronte les problèmes, etc. Donc là, pour le coup, il n'y en a pas parce qu'il est quand même bien rodé, le jeu de Damien Coltis. Mais non, oui, on se sent un petit peu privilégié. Après, on est avant tout des rôlistes, des passionnés, donc c'est surtout ça qui prime, en fait.
Est-ce que c'était la première fois que tu avais l'occasion de jouer justement un jeu qui était comme pas encore sorti officiellement?
Bah, par rapport à la chaîne, non. Des jeux, puisqu'on fait, on fait régulièrement des interviews, des trucs comme ça, on a régulièrement accès à des jeux qui sont pas vraiment encore sortis. Donc ça, c'est pas quelque chose... Mais...
J'allais plus dire dans le contexte d'un jeu qui était un peu encore justement en construction, en quelque sorte.
Ouais, c'est pas forcément la première fois, mais oui, c'est pas, ça arrive pas tous les jours non plus, quoi, clairement. Donc, ouais, non. Bah, je l'ai fait sur Vermine, d'ailleurs.
Ah oui, sur la dernière
Bah
version.
oui, Vermine, ouais, j'ai les actuels plays de la chaîne, ils datent de bah, juste au moment du Covid, juste après. Donc c'était il y a déjà 3 ans, alors que Vermine est sorti, il est sorti enfin, septembre, je crois, 2023, l'année dernière.
Ok.
Donc il y a quelques mois seulement, officiellement.
Et justement, lorsque ce genre de situation-là arrive, est-ce que tu te sens, on va dire, assez à l'aise ou du moins assez pointu ou assez peaufiné pour pouvoir mentionner qu'est-ce que tu considères ou du moins qu'est-ce que tu as l'impression qui roule peut-être un peu moins dans le système ou des choses comme ça?
Oui, parce que ben, chez Die Story, on lit quand même beaucoup de jeux, on aime bien faire nos critiques, nos retours, etc. Donc on a la chance d'avoir, on va dire, une culture du jeu de rôle, en tout cas récent, assez variée. Donc effectivement, oui, on est apte à dire, tiens, ça, je verrai ça peut-être un peu mieux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je ne sais pas créer des choses. Par contre, prendre les choses et les améliorer ou quoi, c'est quelque chose que j'arrive un peu plus facilement à faire. Donc là, clairement, bon, ben, on n'a pas beaucoup de retours à faire sur le système de Damien Coltis parce que... Là, il fonctionne bien, quoi, donc tu peux pas dire grand-chose. Il est très bien, donc... Mais sinon, ouais, lui, il a pu tester son scénario, il a pu se rendre compte que parmi les pré-tirés, il y avait ça, ça qui n'allait pas, etc. Donc il a pu, j'espère, grâce à nous, peut-être un petit peu modifier des petites choses par-ci, par-là. Mais après, je veux dire, une fois que la dimension du jeu prend la table... T'as plus toutes ces différences, t'as pas à te dire ah tiens bah c'est un bêta test, ah bah tiens c'est non tu penses pas, tu joues, tu prends du plaisir, t'es avec les gens et c'est ça pour moi le principal quoi.
C'est vrai, le principal, c'est de passer le bon moment avec des gens qu'on
C'est
apprécie.
vrai, c'est
Exactement.
vrai.
Prochaine question. Je vois que le temps passe, il nous reste peut-être le temps pour deux questions, si ça te va.
Ok, pas de
On
problème.
évoque une prochaine. OK, intéressant. Une question plus aussi au sens large, pas spécifique pour toi, mais je suis curieux de voir un peu qu'est-ce que tu vas mentionner. Concernant,
Ok.
en fait, je serais curieux de savoir un jeu que tu apprécies beaucoup, mais que
Ouais.
tu sais que ce n'est pas, dans le fond, la majorité des gens qui l'aiment, quelque chose que tu vas défendre bec et âme, un jeu que tu adores, mais que tu sais qu'au final, les critiques, ou du moins les avis, ou même les autres youtubeurs sont comme
Bah déjà il y a Nightcrawler, clairement, parce que bah, il est pas très connu, parce que le système il est pas fifou, clairement. Parce que ils vont te dire que depuis, il y a eu beaucoup de jeux qui font mieux la même chose. Et je suis pas en désaccord, mais pour moi, Nightcrawler, il a une patte, une touche spécifique que les autres n'ont pas. Il a un lore au niveau des familles. Il est arrivé à un moment de ma vie aussi qui comptait beaucoup. Il y a des jeux comme ça qui arrivent à un moment où tu te dis, il sera arrivé à un autre moment, on l'aurait peut-être pas autant aimé.
Ouais.
Et
Oh oui, je
Nightcrawler,
comprends.
il est arrivé à un moment où je sais pas, où ça a bien matché et où il a ses défauts, mais pour moi c'est mon jeu préféré quoi, tout simplement. Donc ce serait l'un des jeux.
OK. Ah, très cool.
Là comme ça, j'ai pas non plus hein, une, tu vois, ma bibliothèque elle est entièrement là, hein, donc j'ai pas une grosse collection de jeux non plus.
Ben écoute, c'est pas grave, ça peut. La réponse peut être Nightcrawler, il y a pas de
C'est déjà pas mal, oui.
c'est déjà pas
J'ai
mal.
l'impression de me répéter à chaque fois, c'est toujours les mêmes jeux, mais en même
Oui,
temps, j'en
mais
ai
en
pas
même temps,
non
c'est pas grave.
plus.
Mais je trouve ça intéressant, par contre, que tu mentionnes l'intérêt de certains jeux qui arrivent au bon moment et qui viennent un peu, pas nécessairement renouveler notre expérience, mais lui donner une nouvelle saveur ou qui nous pousse à être plus curieux par la suite. Moi, je me souviens quand j'avais eu, je pense qu'un des premiers jeux français que j'ai eu de main que j'ai acheté, qui m'avait coûté tellement cher à l'époque de le faire venir en France, c'était Altré.
Oh
Altré,
oui.
les premiers, la première version, la première d'Altré, puis ça m'avait renversé parce que c'était comme un peu un genre de premier contact avec un peu le genre, parce qu'il y a quelque chose de très OSR dans Altré, aussi dans la génération procédurale, dans la création d'hexagones, c'est dans la découverte, tout ça, ça m'avait vraiment, vraiment renversé. Puis je sais que si aujourd'hui je le découvrirais, je ne le savourerais pas de la même manière.
Ok.
Je comprends très bien ce que tu veux dire. Un Nightcrawler. Je sais que si je le lisais aujourd'hui, je
C'est...
serais peut-être moins charmé que toi, mais
Ah, mais
je
je
comprends.
l'ai réouvert récemment parce que hein, sur mes streams, les gens, à chaque fois que j'en parle, hein, ils savaient pas de quoi je parlais et ils l'ont
Ok.
réclamé. Donc j'ai fait un petit feuilletage il y a pas très longtemps de Nightcrawler pour montrer, parce que c'est vraiment un vieux jeu, tu vois, il est en noir et blanc et tout. Hein, donc, et en fait, quand j'ai relu les trucs, que j'ai revu les règles, je me suis dit, ah, mais c'est au secours, quoi. Comment j'ai pu jouer à ça, tu vois, des fois, tu dis. Et en fait, malgré tout, je ne peux pas dire du mal de ce jeu parce que il a une particularité pour moi qui fait que bah non, il est trop bien ce jeu.
Ok, bon. Tant mieux, James, tant mieux. On y va qu'une dernière question, si tu veux
Allez.
bien, Fred. Et cette question-là, dans le fond, va être très. C'est souvent une question préécrite que je ne pige pas au hasard, que j'avais déjà prévue,
Ok,
que
tu
j'ai
l'aviez
prévue
prévu
durant
celle-là.
l'entrevue. Et ainsi, je te la lance. Et tu sais, au final, ça conclut en même temps l'entrevue. Je serais curieux de savoir, c'est quoi l'histoire de la statuette Tiki que tu as derrière toi?
Alors là, tu vas être déçu. Hein.
Oh non.
Tu vas vraiment être déçu. Hein.
Oh.
Bah parce que mon pseudo sur Internet, c'est Manitou.
Oui.
C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, on me l'a donné. Donc je l'ai gardé. Et puis, j'ai acheté une maison il y a 2 ans et je cherchais des trucs pour le jardin. Tu vois, je devais prendre un raccord pour le tuyau d'arrosage. Je suis arrivé, j'ai vu cette statuette et j'ai dit, putain, elle est trop chouette. Et je l'ai achetée. Et je l'ai mis là parce que moi, elle me plaisait à moi. En fait, c'était même pas prévu ni pour le stream ou quoi. Je la trouvais cool. Je l'ai mis là. Et en fait, je me suis aperçu la semaine d'après qu'en fait, le magasin avait fait une erreur dans le prix. Elle était
OK.
censée être beaucoup, beaucoup plus chère. Donc, du coup, ben, j'ai eu un petit peu de chance. Tu vois, je l'ai acheté pas très cher. Et j'ai appris seulement à ce moment-là que c'était quelque chose qui était censé aller dans le jardin. Et moi, j'ai vu ça. J'ai fait, mais c'est pas possible. Je peux pas mettre ça dans le jardin. C'est.
Mais non.
C'est une super déco et je l'ai mis là. Et puis, bah, même si c'est pas tout à fait culturellement la même chose, puisque c'est plus australien, pas australien, mais
Hawaïen.
hawaïen, voilà. Moi, ça me parle parce que bah, je le trouve juste super chouette, en fait, ce truc.
Ben
Tout
écoute,
simplement.
c'est une réponse tout à fait valable. J'accepte absolument cette réponse-là. J'étais curieux de savoir si t'allais me dire que t'avais des racines justement hawaïennes quelque part. J'étais
Pas
curieux.
du tout, pas
Pas
du
du
tout.
tout.
J'ai des racines, je sais même pas trop d'où parce qu'il y a plein de mélanges dans ma famille et tous ne sont pas connus en fait. Donc,
OK.
du coup, mais par contre, pas aussi lointaine non plus.
OK. Ben, très belle statuette tout de
Voilà.
même, je voulais le mentionner. Très belle
Merci
statuette
beaucoup.
pour les gens qui nous écoutent en audio et qui ne voient pas la vidéo. Allez googler une statuette Tiki, vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle.
Ouais.
Donc, hey, c'est ce qui conclut l'entrevue. Merci beaucoup, Fred, d'être venu
Avec grand
échanger.
plaisir.
Est-ce que tu as apprécié ton expérience?
Très bien, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de
Ben
reparler,
oui.
peut-être faire d'autres projets ensemble, qui
Ben
sait?
oui, ben oui, j'aimerais ça. J'espère que l'occasion va se présenter. Moi, je suis toujours très content de pouvoir échanger avec des personnes justement situées à des années-lumière de moi, tandis que j'essaie comme je peux, de relier les communautés francophones, franco-québécoises et tout ça. Donc, encore une fois,
Toujours.
merci beaucoup, Fred, pour les gens qui nous écoutent. J'avais comme invité Fred de la chaîne Die Story, qui travaille également au studio Agathe. Tous les liens menant aux différentes plateformes des deux entités vont être dans la description de la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup, Fred, et on se
Ben
dit
écoute,
à la prochaine. Au
à
revoir.
bientôt, merci de m'avoir reçu.